Amen, merci. Ben, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire deux ou trois passages. Alors, au départ, ça va vous sembler éloigné du sujet que je vais aborder, mais vous allez tout de suite après voir le lien. Donc, on va ouvrir. Les deux passages sont dans l'évangile de Jean. On va l'ouvrir. On va Jean 6, 63. C'est bon, vous y êtes? Ok. Allez, allons-y. Alors, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ensuite, on va aller dans Jean 12, Jean 12, 24, un passage que j'aime beaucoup, personnellement, particulièrement. Dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et après, je vais juste lire au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà. Donc on va juste s'arrêter là sur ces deux passages, puis on va continuer. Alors, Marc m'avait demandé de faire un message en rapport avec la journée spéciale d'aujourd'hui, qui est la fête des Pères. Alors, je voulais pas faire un message naturellement juste pour les pères, parce que je me suis dit dans ma tête, j'ai pensé à David là, j'ai dit, tiens, David qui est de ma même génération, il est père depuis, enfin il est marié depuis plus de 10 ans avant que je me marie, donc je vais pas venir lui dire, ah, tiens, être père c'est ça, etc. Et puis j'ai pensé un peu à Guy et à Philippe Compagnon, je dis, ah là, eux, ce serait quand même assez prétentieux si je viens leur donner une leçon sur ce que c'est être père ou pas père, etc. Donc du coup, j'ai réfléchi, je tiens, je vais parler d'un sujet qui va nous toucher tous, et puis je voulais pas faire un message que pour les hommes, mais je voulais quand même toucher à la fois les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, etc. Je me suis dit, je vais parler du dénominateur commun, qui est quoi? La famille. Donc, comme ça, au moins, on sera tous concernés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était pas prévu. On m'a un peu débroussaillé le chemin à travers le message de dimanche dernier. Vous vous rappelez du message de dimanche dernier? Ah ben, ouais. C'était pas pour toi la question. Hein. C'était pas pour toi la question, David. Voilà, donc si vous vous rappelez du contenu du message, David nous a parlé de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Donc c'est vrai que c'est un sujet classique qu'on prêche tout le temps, mais bon, moi je pense que c'est toujours important de revenir toujours aux fondamentaux. Et donc, il nous a prêché quoi? Que Dieu est amour. Mais moi je vais dire aujourd'hui, Dieu est amour parce que Dieu est famille. Et Dieu est famille parce que Dieu est amour. Donc on va essayer, je vais essayer de vous démontrer ça à travers la parole de Dieu, on va essayer de parler de ça. Alors franchement, moi j'espère vraiment que vous avez eu, parce qu'en fait, on écoute tellement de messages, moi j'espère juste pour vous, que vous restez des fois en disant, j'ai écouté tel message, c'était profond, ou c'est un message qui est important, et de passer du temps dans la réflexion par rapport à ce que vous avez écouté et de voir qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie. Parce que sinon, on peut écouter plein de messages. Bon, après, bon, on a écouté, on passe un autre message. Et donc, le but, quand même, c'est d'écouter cette parole de Dieu et puis de se l'accaparer. Bon, nous, on a essayé de faire ça le mardi dernier, à la réunion de prière. Moi, je vais introduire la réunion de prière. Et puis, j'ai lu un verset que je vais d'ailleurs vous lire. Comme ça, on va partager. Et puis, je vais commencer le message. C'est dans 1 Jean 3:14, qui dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'on lit nos Bibles tous les jours? Non. Parce qu'on prie tous les jours? Non. Parce qu'on vient à l'église tous les dimanches? Non. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et qui dit frère renvoie à quoi? Famille. Voilà. OK. Donc, on va essayer de comprendre. Le but du message, c'est vraiment qu'on comprenne quelle est la dimension spirituelle de la famille. Parce qu'en fait, la famille s'enracine véritablement en Dieu, et c'est ce qu'on va voir, pour qu'on comprenne véritablement quelle est vraiment cette dimension spirituelle de la famille qui est très importante. Parce que si on ne le comprend pas, on ne comprend pas. Moi, je prétends que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu sur terre, on ne comprend pas le plan du salut. Et je vais vous le montrer. On va essayer, petit à petit, de le voir. OK? Alors, pour le montrer, c'est très simple. La Bible commence par cette phrase. Au commencement, Dieu. Je m'arrête là. Je vais juste m'arrêter ça. Enfin, c'est juste pour montrer comment on lit aussi. Au commencement, Dieu. Je mais même pas la suite. Dieu créa. Au commencement, Dieu. Alors, c'est vrai que dans la langue française, quand on dit Dieu, ça parle pas. Mais le mot utilisé, c'est au commencement, Elohim. OK? Donc, ceux qui sont habitués à lire des commentaires bibliques, ils ont dû rencontrer cette remarque, au commencement, Elohim. Et Elohim, c'est un mot qui, sur sa forme, est pluriel. Mais dans son sens, qui est singulier. OK? Déjà, qu'est-ce qu'il nous révèle? Il nous révèle une chose qui est extraordinaire. Au commencement, Dieu. Mais Dieu, dans un sens un peu pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu est seul, pharaon. Dieu est un, il est unique, mais il n'est pas seul. C'est ça que ça signifie. Dieu est un, mais il n'est pas seul. Alors, c'est un paradoxe. Parce que si par exemple quelqu'un vient et je lui dis, ah ben tiens, il y a que Thierry qui est dans la salle là-bas, et puis il me dit, mais il est seul? Ben je dis, non, je viens te dire qu'il n'y a que Thierry qui est dans la salle. Donc, s'il n'y a que Thierry qui est là, c'est qu'il est seul. Donc, être un, nous, le raisonnement humain nous renvoie quoi? À ce que nous sommes seuls. Mais au sens divin du mot, être un, Dieu, il est un, mais il n'est pas seul. OK? Donc ça nous envoie déjà à un paradoxe. Mais pourquoi Dieu qui est un n'est pas seul? Pourquoi c'est possible? Ben c'est à cause de l'amour. Et c'est à cause du fait que Dieu est famille et que Dieu est amour. Et en étant amour, il est famille. Et en étant famille, il est amour. Donc on va voir ça. Alors, ça c'est déjà un premier constat qu'on peut faire. OK? Alors, et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'amour, si on regarde, c'est vraiment la chose qui permet en fait de mettre toujours des concepts ou des choses antinomiques ensemble. Alors, c'est ça qui vous permet. Et en fait, le fait de pouvoir mettre des concepts ou des choses antinomiques ensemble, vous plongez dans ce qu'on appelle les principes du royaume de Dieu. Premier principe, Dieu est un, mais il n'est pas seul. OK? Alors, pourquoi je dis ça? Si on prend les principes du royaume de Dieu, on en connaît plusieurs. Qu'est-ce que Jésus nous a appris? Servir, c'est le plus grand. Ça, ce n'est possible que par amour. OK? S'il n'y a pas amour, on ne peut pas prétendre que servir, c'est être le plus grand. C'est pas possible. Vous n'arrivez à faire ça, à accepter d'être servi pour devenir plus grand que par amour. Ce n'est pas possible par autre chose. Deuxième principe. Bon, on peut les prendre. Il y en a plein. Les principes du royaume du ciel, encore, ça va t'apprendre quoi? Ben, être riche, c'est partager. Deux choses antinomiques. Si vous voulez les mettre ensemble, c'est que par amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, en étant riche, partager sans amour. C'est impossible. Et ça, c'est un principe du royaume des cieux. Et il n'y a que l'amour qui arrive à mettre des principes antinomiques ensemble. OK? Et mettre ces principes antinomiques ensemble, c'est vivre les principes du royaume des cieux. OK? Enfin, si je prends un autre principe, perdre, c'est gagner. Alors, franchement, moi, je fais du trading. Hein. Je pense que si je vais aller voir mon chef en lui disant ben, « perdre, c'est gagner », à mon avis, il va me dire « écoute, mon gars, on pense que tu as perdu la tête. On va quand même, bon, tu vas quand même, ok, fine, on va te trouver un autre truc, tu vas faire autre chose. » Ok. Perdre, c'est gagner. Ça, encore une fois, ce n'est possible que si l'amour est entre les deux. Et il n'y a que l'amour qui permet de mettre ces choses antinomiques ensemble. Ok. Le plus, c'est le moins. D'accord. Moi, j'ai fait des maths, j'ai une maîtrise de maths. Je veux dire, si je me gardais que sur mon raisonnement mathématique, en disant plus, c'est moins, on va tout de suite me dire, écoute, ta maîtrise en maths, tu vas nous le refiler parce que c'est pas du tout bon. Voilà. Donc, moins, c'est plus. Mais ça, ce n'est possible, encore une fois, que par amour. Ce n'est pas possible autrement. OK? Et c'est ça qui est l'essence même de Dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi on comprend pourquoi Dieu est seul et unique et pas seul. Pourquoi Dieu est amour. Pourquoi Dieu est famille et amour. Pourquoi il est amour et famille. Et c'est comme ça qu'on le comprend. Alors, peut-être qu'il y en a qui disent, ah ben ça c'est un peu théorique, ça nous c'est assez loin, etc. Ok. Je vais vous faire la démonstration, une deuxième démonstration. Et celle-là, je pense que ça va vous convaincre. Revenons au récit de la création. Dans le récit de la création, vous vous rappelez, au premier jour, deuxième jour, etc. Quand Dieu avait tout fait, avant qu'il fasse l'homme, vous avez remarqué que les animaux, Dieu les a faits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a faits mâles et femelles. OK. Arrivé à l'homme, Dieu a fait que l'homme. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, c'est très important de lire attentivement. Dieu a créé l'homme, la femme n'existait pas encore. Dieu a créé l'homme, il l'appelle, il lui dit, ben voilà tout ce que j'ai fait. Tout ça, c'est pour toi. Et même je vais te dire, appelle les animaux, tu vas leur donner un nom, et tout ça, etc. L'homme a fait ça. Et Dieu va rajouter juste après une phrase, il lui a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit... OK. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait comme les animaux en faisant dès le départ hommes et femmes? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu était en train de lui révéler sa propre nature. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, Dieu... Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est quand je dis Dieu n'est pas seul, ben vous avez compris derrière. C'est que Dieu... avec le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est ça, en fait. C'est que, je vais le faire comme ça. Vous avez, comme ça, ça va être vu. Vous avez Dieu. Donc, le Fils. OK? Dieu qui est en danger, le Fils. Et ils sont un. Mais pourquoi ils sont un? Par l'action du Saint-Esprit et de l'amour. OK? Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est clair ou pas? OK? Ben Dieu va reproduire la même chose avec l'homme. Il va faire quoi? Homme. Après, vous avez remarqué que Dieu n'a pas fait la femme comme il a fait l'homme. Il l'a tiré d'où? De l'homme. Parce que le Fils vient du Père. Il vient de l'intérieur du Père même. OK? Mais ce n'est pas anodin. Parce que le Seigneur veut nous apprendre plein de choses à travers ça. Il a pris la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il a fait endormir l'homme. OK? Il a tiré la femme. Déjà, ça, c'est une préfiguration du verset que je viens de lire. Si le grain de blé ne tombe par terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est comme s'il l'avait fait mourir. Il va tirer la femme. Et la femme, ça veut dire quoi? Ève, ça veut dire quoi? Vie. Il va porter de la vie. Donc, il meurt. Il va le tirer et il va porter du fruit. C'est déjà une préfiguration. Et c'est l'œuvre du Christ. En fait, cette phrase-là, c'est l'œuvre tout à fait du Christ. Mais on va y revenir tout à l'heure. On ne va pas brûler les étapes. Donc, Dieu va faire quoi? Il va tirer la femme de l'homme. OK? Quand l'homme a vu la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en créant l'homme, il a fait quoi? Il faut voir que l'homme, c'est quoi? Il a fait corps. Donc ça, c'est corps. Il lui a donné son esprit. Ça, c'est esprit. Et l'homme, c'est quoi? C'est l'intersection de l'esprit et du corps. Alors, je vais y revenir. Alors, ça permet même de comprendre quelle est la dimension de l'acte sexuel. Mais on va y revenir tout à l'heure pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est vraiment l'homme. Donc, en fait, donc, il a créé l'homme, la femme. Dieu lui a donné son esprit. OK? Et donc, la femme va se présenter devant l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme va tomber d'une certaine façon amoureux de la femme. Il va y avoir de l'amour entre les deux. Donc, l'esprit de Dieu qui est en lui et qui fait qu'il va le sortir, ils vont être liés par quoi? L'esprit de Dieu et par amour. Et c'est pas anodin. C'est vraiment la même chose, la même image qui se pose. OK? Alors, je disais tout à l'heure que l'homme, c'est esprit et corps. C'est vraiment l'intersection des deux. Et c'est pour ça. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quoi? C'est juste la vie. OK? C'est pour ça que l'acte sexuel, c'est dans ce sens-là qu'il y a un problème dans l'acte sexuel. C'est-à-dire, quand on donne notre corps, on donne notre vie. D'une certaine façon. Et personne n'a envie de donner notre vie. Mais à qui on va le donner? À celui de qui on est tiré. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Et c'est pour ça que l'homme dit, c'est la femme, c'est eau de mes eaux, chair de ma chair. Parce qu'elle a été tirée de lui. Exactement. Et donc, donner son corps à quelqu'un qui a été tiré de toi, qui est toi-même, c'est pas grave parce que c'est comme si tu te donnais d'une certaine façon. Mais donner son corps à quelqu'un qui n'était pas celui qui était destiné, c'est comme si tu donnais ta vie. Et c'est pour ça que il faut comprendre la dimension spirituelle de qu'il y a derrière. Voilà. C'est assez profond. Je vais pas développer là-dessus. Ça faut vous pouvez continuer à réfléchir sur ces sujets. Mais c'est important. Et ça, c'est quoi? C'est une image d'une certaine façon de la Trinité, d'une certaine façon. OK? Alors, ce qui est extraordinaire, ce que je viens de dire là, c'est valable partout dans la vie. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est valable partout dans la vie? C'est ce schéma-là qu'on retrouve partout. Alors, pour vous montrer ça, vous savez, tout ce qui vit dans le monde physique, on est fait de quoi? Quel est l'élément le plus élémentaire qui fait le monde physique? L'atome. Merci. On va voir un film et on va voir comment l'atome est constitué. Vous allez voir la même image. Quelqu'un peut m'aider? J'ai mis une vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, l'atome est constitué de noyaux. Autour du noyau gravitent des électrons. Et ce n'est possible qu'à travers deux forces. OK? Ce que vous avez compris. Mais c'est le même schéma. Ça, ce n'est possible qu'à travers l'esprit et l'amour. Ça, ce n'est possible qu'à travers l'esprit et l'amour. C'est ce schéma que vous retrouvez partout. Alors, vous savez ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve quelque chose qui est valable dans l'infiniment grand, on le retrouve dans l'infiniment petit. Mais vous savez, en fait, la physique actuelle, il y a deux théories. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, donc c'est la théorie d'Einstein, qui explique l'infiniment grand. Et il y a une autre théorie, qu'on appelle la théorie quantique, qui explique l'infiniment petit. Mais vous savez, le problème des physiciens, c'est que en fait les deux théories sont contradictoires. On n'arrive pas, tout le problème de la physique, c'est de pouvoir relier ces deux théories, et on n'y arrive pas. Voilà. Mais le Seigneur est formidable. Son infiniment grand, son infiniment grand ne se contredisent pas. Voilà. OK? Voilà, ça c'est juste une affaire. Donc c'est pour montrer. Donc l'idée c'était quoi? C'était pour déjà montrer ce schéma de famille, d'une certaine façon. OK? Et ça c'est important. Parce que finalement, ben, la femme est tirée de l'homme, mais l'homme aussi est tiré de la femme. Il y a une symétrie. Parce qu'en dehors d'Adam, tous les hommes proviennent d'où? De la femme. Donc en fait, il ne faut pas prendre ce verset en disant l'homme est tiré de la femme et puis en faire toute une théorie pour dire les femmes doivent être soumises, etc. Non, tous les hommes proviennent de la femme. Donc c'est quand même, il y a quand même une certaine logique à ça. Donc ça nous dit quoi? Ça nous raconte une histoire de famille. Voilà, une histoire de famille. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer là-dedans? Alors, je perds un peu mon fil, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'on peut tirer là-dedans? Quand l'homme a péché, ce qui s'est passé, c'est ces deux forces qui ont été perturbées d'une certaine façon. Parce que vous le voyez, quand, d'une certaine façon, l'ennemi a dit à l'homme, mais non, mais si vous faites ce que Dieu vous a interdit, mais en fait, vous deviendrez comme des dieux. Ok? Et puis il a dit, quand la femme a chuté, ce qui s'est passé, c'est que ça a été perturbé d'une certaine façon. Et là, une des preuves pour montrer ça, c'est que juste après, quand Dieu avait demandé qu'est-ce qui s'est passé, ben, en fait, ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Donc, l'amour divin n'était plus là. Voilà. Et toute l'œuvre du Christ, c'est quoi? C'est de rétablir ça. C'est pour ça qu'il nous a envoyé quoi? Le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'amour, c'est le message le plus important de la foi chrétienne. OK? Et donc, c'est une histoire de famille. Alors, pourquoi c'est une histoire de famille? C'est une histoire de famille qui reproduit le même schéma. Pourquoi ça reproduit le même schéma? Parce que la Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que... Alors, on va lire un passage déjà dans Jean 5 pour que vous voyez pourquoi, en quoi l'œuvre du Christ, c'est de refaire un peu ce schéma-là. Parce que ça, c'est le faire qu'il a fait. OK? Donc, on va voir pourquoi l'œuvre du Christ. On va utiliser des versets, pas de la théorie, mais que des versets. Donc, Jean 5, verset 19, je crois. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne voit que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père a fait ça. OK? Et ce qui est écrit, c'est quoi? Le Fils ne fait rien, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Vous vous rappelez dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu dit quoi? Faisons l'homme. Quand il disait faisons l'homme, c'était bien sûr justement les deux. OK? Donc le Fils a vu faire le Père. OK? Et donc, ce qui est écrit ici, c'est que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Voilà. Alors, pourquoi le Fils va faire pareillement? Ben, c'est là où on comprend tout le sens de ce que Paul dit du Christ. Paul, qu'est-ce qu'il dit du Christ? Il dit que Jésus est le second Adam. C'est le dernier homme, c'est le second Adam. OK? Alors, on va lire le passage qui le dit, et puis on va le commenter, comme ça on va voir. C'est pour ça que l'Église est appelée épouse de Christ. C'est pas pour rien. Ça reproduit ce schéma. L'Église est appelée épouse du Christ parce que ça reproduit ce schéma-là. OK? Et si vous vous rappelez, Jésus, quand il était sur la croix, parce que la croix, c'est vraiment notre étendard à nous tous qui croyons en Christ. OK? Jésus, quand il était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu le soldat qui lui a percé le côté. Il est sorti quoi? De l'eau et du sang. OK? C'est la même chose que la femme qui est tirée de l'homme. C'est une image, c'était une préfiguration de ça. OK? Et un Jean dit, après je reviendrai sur un Jean dit, vous vous rappelez de ce que un Jean dit? Alors je ne me rappelle plus exactement du verset, mais je vais le retrouver facilement. Un Jean dit, voilà, un Jean dit, chapitre 5, verset 7, car il y a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang qui rendent témoignage et les trois sont d'accord. Quand Jésus a été percé, le sang et de l'eau est sorti. L'esprit de Dieu qui était en lui. Tout ça, justement, c'est une préfiguration de ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Église va sortir justement de la résurrection du Christ. OK? Et pourquoi Jésus avait demandé à l'Église en le disant, allez, faites de toutes les nations des disciples à travers l'Esprit? Ben, c'est ça. C'est-à-dire, comme l'Église, c'est l'épouse du Christ, c'est la femme qui fait naître. Donc, c'est l'épouse du Christ qui va faire les disciples. Mais par quoi? Par l'Esprit et par l'amour. Voilà. C'est encore une fois une affaire de famille. OK? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK? Donc, je vois si c'est clair. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Je sais pas si ça vous embrouille ou ça vous fait réfléchir ou ça vous éclaire, mais c'est ça qu'il faut voir justement dans l'œuvre de Christ. C'est ça qu'il faut voir. OK? Alors, maintenant, comment cette œuvre va se traduire? Ben, à travers les principes du royaume des cieux. Parce que Jésus, il veut établir le royaume des cieux. Ben, il va falloir que lui-même soit le premier à respecter tous les principes du royaume des cieux. On est d'accord? Un des principes du royaume des cieux, c'est quoi? Mourir, c'est vivre. La mort, c'est la vie. Encore une fois, deux choses complètement antinomiques qui n'est possible que par l'amour. Si vous aimez votre enfant, vous serez prêt à donner votre vie pour votre enfant. Voilà. On a vu plein d'histoires où en fait des enfants avaient un problème sur un des organes, etc. Mais les parents ont donné leur organe. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'enfant. Quand on n'aime pas, on ne peut pas faire certaines actions. Donc la mort, c'est d'une certaine façon la vie. Ok? Et donc la mort de Jésus sur la croix, c'est quoi? Ben c'est le premier passage que j'ai lu au début. C'est ce grain de blé qui est tombé en terre, qui meurt. Donc, le fait de mourir et de pourrir dans la terre, c'est l'œuvre de la croix. Jésus qui a été brisé à la croix. OK? Mais ce grain qui pourrit et qui va grandir, qu'est-ce qui va devenir? Un arbre. Et c'est tout le sens de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, c'est ce grain de blé qui est tombé en terre, qui va devenir un grand arbre. Et ce grand arbre va servir à quoi? Va servir à ce que tous les oiseaux, toute la nature, tout le monde puisse cueillir des fruits, puisse se nourrir. Et ça renvoie à quoi? À l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Dieu, il a choisi l'arbre de vie. Mais il l'a pas choisi par hasard. Cet arbre qui a choisi, ça aurait pu être de l'eau, par exemple. L'eau de vie. L'eau de la connaissance, ça pourrait plus être ça, hein? Parce qu'on dit que l'eau, c'est la vie. On le dit, on le comprend, etc. Mais il a choisi l'arbre. Et cette parole du Christ qui dit, si le grain de blé qui n'est tombé par terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, l'œuvre de Christ nous traduit, c'est justement, c'est ce grain de blé qui tombe par terre, qui meurt, et qui devient un grand arbre, qui porte beaucoup de fruits, et c'est ça qui nous donne justement ce que Christ va faire. C'est-à-dire, parce que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est-à-dire, Dieu s'est adressé à l'homme. Il ne s'était pas adressé à la femme pour lui dire, pour lui donner l'ordre, tu ne devrais pas manger. Il l'avait donné à l'homme. L'homme l'a transmis, parce que dans le dialogue qu'il avait avec le serpent, on voit bien qu'elle était au courant. OK? Donc, il l'a transmis, cette parole. OK? Alors, cette parole que l'homme lui a transmise, c'était quoi? Alors, j'ai perdu le fil, désolé. Je voulais faire sentir un truc, mais j'ai oublié. Attends. Bon, ça va me revenir. Donc, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, grosso modo, voilà, c'est que le Christ a voilà, ça m'est revenu. Donc, l'homme lui a donné le message. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme n'a pas eu foi en ce que l'homme avait dit. Donc, elle a douté. Elle savait plus. Elle a douté. Et ça l'a fait tomber. OK? Ben, nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, si on a foi au Christ et qu'on croit mordicus à ce que le Christ nous a dit, à ce que le Christ nous a promis, à ce que le Christ nous offre pour la résurrection, et qu'on y croit fermement, ce qui va se passer, c'est que le Fils va nous unir à travers lui avec Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'il va rétablir, justement. Et c'est comme ça que, voilà, on va vivre par amour, on va vivre par esprit, et on va marcher de gloire en gloire. Donc, on n'est pas à la perfection, mais on va marcher dans cette optique-là, en vivant selon l'Esprit de Dieu et en vivant selon l'amour de Dieu. Et après, c'est le Christ qui va nous parfaire pour que nous soyons un avec lui. Et en étant un avec lui, mais on sera un avec le Père, et Dieu va rétablir toutes choses nouvelles, et cette grande famille que Dieu voulait rétablir va se mettre en place. Pourquoi? Parce que le Fils a vu le Père faire ce schéma, on a lu, il a reproduit ce schéma, il y a eu un petit souci, ben il va le rétablir pour que ce problème puisse se rétablir. Donc c'est ça, en fait, le sens véritablement de la crucifixion et de la venue de Jésus sur terre, et le sens de la crucifixion et de la résurrection. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors c'est vrai que c'est une autre façon de le voir. C'est vrai que des fois, quand on demande aux gens, mais pourquoi Jésus est venu? Ben, c'est pour nous sauver. Pourquoi il est venu pour nous sauver? Ben, parce que voilà, on était perdus. Mais comment il nous a sauvés? Ben, en étant mort sur la croix. Mais pourquoi il était obligé de mourir sur la croix? Ben, ah, il fallait que son sang soit versé. Et pourquoi son sang? Ben, parce que le sang, c'est la vie. Mais pourquoi il était obligé vraiment de verser son sang, etc.? Ben, parce que le Père a été offensé d'une certaine façon. Il fallait corriger, etc. Et donc, quelqu'un qui croit pas, il dit, mais votre Père, il est horrible. Parce qu'on l'a offensé, qu'il voulait rétablir. Et donc, la foi chrétienne va corriger un peu le truc en disant, ah non, mais en fait, c'est parce que le Père, c'est le Fils. Donc, c'est lui-même qui se sacrifie. Donc, ok, d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est vrai. C'est tout le sens du sang qui est versé. Et quand on lit les livres de Lévitique et tout ça, on voit le sens spirituel que ça renvoie. Mais le fait de voir les choses d'une certaine façon, En le présentant sous cette famille spirituelle que Dieu veut mettre, ça permet d'avoir une nouvelle perspective. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'ai réfléchi en essayant de comprendre un peu les choses, et ça m'a plus touché que l'aspect de la mort et parce que c'est une question de famille. Et quand on dit famille, on dit toujours amour. Et quand on dit amour, ben voilà, on dit voilà, on se pardonne tout, etc. On se supporte tout. Voilà, on fait plus cas des petites choses, etc. Et en voyant comme ça, ben, on voit encore plus la force des choses. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée un peu de ce que je voulais vous partager pour qu'on puisse voir quel est le sens spirituel de la famille. Quel est le sens spirituel de la famille? Alors, je vais juste terminer en faisant peut-être une petite étude de cas pour voir si on ne fait pas ça, si on n'a pas cette dimension un peu de famille, à quoi ça peut donner. En quoi ça peut aboutir à des choses qui sont pas bien. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. OK? On va essayer de lire dans l'histoire d'Abraham avec Lot. C'est important. Comme ça, on va voir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont interprété, ouais, tiens, Abraham s'est séparé avec Lot et c'est à partir de là qu'il a pu rentrer dans le plan de Dieu, etc. Bon. C'est peut-être une interprétation. Moi, je suis pas très convaincu par ça. Pour la simple raison, c'est que Dieu, la Bible dit, dans 2 Pierre, je crois, que Lot est un juste. Donc, s'il présente Lot, c'est un juste, c'est qu'il y a bien une raison. On va lire dans Genèse 13. On va juste lire. Et puis après, je vais interpréter un peu et puis on va s'arrêter là. Dans Genèse 13, c'est une affaire de famille entre Abraham et Lot. Vous vous rappelez? C'est vraiment une affaire de famille. Alors, il s'est passé quelque chose. Bon, je vais peut-être pas le lire, mais c'est dans le truc 13. Ok, bon, ok, on va le lire, c'est peut-être mieux. Ouais. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils pouvaient qui pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et après verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. OK? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Abraham, il fait ce constat, il voit qu'il y a un problème. Mais il n'a pas voulu résoudre le problème d'une certaine façon, de façon entre familles. Il a trouvé, en fait, une solution facile. C'est-à-dire, il a dit, bon, on ne peut plus être ensemble, le mieux, c'est qu'on se sépare. C'est comme ça qu'il a... Alors, on peut dire, ça paraît raisonnable, etc. Mais la séparation, c'est pas de Dieu. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas toujours, en tout cas, dans le plan de Dieu. Parce qu'il aurait pu dire aussi, ben écoute, tu es mon neveu, tout ce que tu as, c'est à moi, tout ce que j'ai, c'est à moi, on va quand même faire en sorte que tout se passe bien, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont séparés. Alors, ça, c'est l'attitude d'Abraham, ok? Et on va voir l'attitude de Lot. Donc, Abraham n'a pas vu cette dimension familiale. L'attitude de Lot, c'est autre chose. Lot, quand Abraham lui a dit, ok, on va se séparer, Lot a regardé toute la plaine. Ce qui est incroyable, c'est qu'il voit tout le truc vert, tout le truc qui était bien. Il n'a pas proposé à Abraham, je prends cette partie et puis tu prends cette partie sur cet ensemble qui est bien. En fait, Lot a tout pris. Il a tout pris. Donc, il a tellement convoité qu'il a tout pris. Alors, là où Abraham a été, d'une certaine façon, bien, c'est qu'il a accepté de perdre. Mais c'est parce qu'il a perdu qu'il va tout gagner. Et c'est là où, en fait, Dieu va se révéler à lui parce qu'il a appliqué un principe du royaume. Et Dieu va lui montrer, c'est parce que tu as accepté de perdre, mais moi je vais te donner une promesse, tu vas tout gagner. Donc c'est pas parce que Abraham, moi j'ai vu beaucoup d'interprétations qui disent, ah non mais il a fallu que Abraham se sépare vraiment de Lot pour que non, mais c'est parce que Abraham a fait cet acte de foi. Quand Lot avait tout pris, il lui a pas dit, mais t'as tout pris, t'as pris toute la grande part, t'as même tout pris tout, mais tu m'as rien laissé. Mais il a accepté de perdre, et c'est après, au verset 14, que Dieu va se révéler à lui et lui faire des promesses. Ok? Et après, on connaît l'histoire de Lot. Lot qui a convoité, qui a voulu tout gagner, ben, il va tout perdre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On connaît l'histoire de Lot. Ben, on connaît après ce qui s'est passé. Il a tout gagné. Et ce qui est encore plus incroyable dans l'histoire de Lot, et ça doit nous hanter nous, et ça doit nous faire réfléchir véritablement. Lot, il a fallu que Dieu le sorte. Il a fallu que Dieu fasse de l'histoire de Lot une affaire personnelle. Parce qu'en fait, quand Dieu était envoyé les deux anges et qu'il a demandé à Lot de sortir de Sodome, il a tardé. Même ces gens se sont dit, mais s'il tarde, c'est que ça ne doit pas être aussi sérieux que ça. Il a fallu que ces deux anges le sortent, mais vraiment de force, pour qu'il puisse sortir. Ça, c'est une image pour nous dire que quand nous sommes dans notre Sodome, parce que nous sommes tous dans notre Sodome, nous sommes tous dans le péché, on ne peut pas sortir de ce péché tant que Dieu ne vient pas faire de notre situation une affaire personnelle, une affaire de famille. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'en fait, quand vous avez cette grâce de connaître Dieu, ayez ça en tête, c'est que vous vous dites, Dieu m'a fait grâce véritablement de le connaître, ben je vais véritablement marcher de façon ferme avec lui. Parce qu'il a fait de mon cas une affaire personnelle. Moi, je vous dis, je connais des gens qui ne sont pas dans la foi, mais qui aiment le Seigneur, qui sont musulmans, des amis. Mais tu les vois. Tu peux beau leur parler, matin, midi, soir. Ils viennent te voir, ils te posent des questions. Ils ne sont pas dit parce qu'ils voient qu'en fait, en tout cas, il y a des choses qui les intriguent. Ils viennent te poser des questions quand même. Tu les réponds. Tu leur dis, ah ouais, ok, je suis d'accord avec ça, etc. Mais ils ne font jamais le pas. Parce que pour eux, ce qu'ils croient, c'est la vérité. Et pourtant, ils voient que des fois, c'est pas si... Mais parce que justement, quand tu vois ça, tu pries pour eux, parce que c'est ce que Dieu nous appelle, c'est de prier véritablement pour, en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour que Dieu se révèle à eux, pour qu'ils le connaissent. Mais ça doit nous renvoyer du privilège que nous avons. Et donc, de porter les autres dans la prière. Et donc, de ne pas, par exemple, les accuser. Ah tiens, ouais, il ne veut pas m'écouter. Bon, ok, c'est son problème. Mais non. Il faut intercéder pour eux. Moi, mes amis, j'intercède pour eux. Je dis, mais Seigneur, je veux que tu te révèles de façon claire et nette pour eux. Voilà. Et tu dois les porter dans les prières. Pourquoi? Parce que moi, je les vois comme mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de famille. Et que nous tous, nous devons fonctionner comme ça, voir nos frères et sœurs, c'est une affaire de famille. Alors, c'est toujours difficile, ça peut être difficile parfois. Des fois, on a du mal, etc. Ça arrive à tout le monde. Moi-même, dans ma propre famille, il peut y avoir des petits soucis, etc. Des petits problèmes, etc. Ça nous arrive tous. Mais nous avons cette responsabilité de pouvoir véritablement se tenir à la brèche et de ne pas se laisser aller, mais d'essayer tous les jours de marcher dans les voies du Seigneur pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur arrivent au Seigneur. Et ça, il faut qu'on en fasse, nous, une affaire personnelle. C'est-à-dire, il faut qu'on se mette à genoux pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Parce que le Seigneur qui était là au ancien, il a accepté de venir mourir pour nous, alors qu'il avait tout. Il avait tout, mais il a accepté de venir pour nous. Et donc, nous, on doit être justement motivés par cela. Alors, et pour poursuivre un peu sur l'histoire de Lot, même quand il est sorti, Dieu lui a dit, va à la montagne. Et ça encore, c'est une image, parce qu'en fait, la montagne, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. Vous vous rappelez, Moïse, il a rencontré le Seigneur à la montagne. Élie, la transfiguration, ça s'est fait à la montagne. Ok, il y a plein d'images comme ça dans la Bible où les choses se révèlent, Dieu se révèle à la montagne. Donc c'est une manière de lui dire, mais file-toi vite vers la présence de Dieu, parce que c'est là où tu as ton salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a désobéi. Quand il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où il y a eu l'inceste avec ses filles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où les Ammonites et les Moabites sont sortis. Ok? Et donc, après, si vous regardez l'histoire de l'Église, ben, les Ammonites, ça a été que des catastrophes après. Tu vois? Et en fait, justement, quand on a conscience que Dieu nous a sauvés, ben, filons vite à la montagne de Dieu. Et dans cette montagne de Dieu, prenons les choses à cœur et marchons dans une vérité, et marchons dans la vérité, marchons vraiment de façon ferme avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on se laisse aller. Ce n'est pas facile encore une fois, mais il faut qu'on ait cette exigence de nous-mêmes de marcher véritablement avec le Seigneur. Mais marcher véritablement avec le Seigneur. Ce n'est pas je marche aujourd'hui, demain, etc. Non, on marche, on essaie tous les jours d'avoir cette exigence de marcher avec le Seigneur. Et c'est comme ça que nous pouvons justement avoir cette intimité avec Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse nous inspirer, que l'amour de Dieu puisse nous imprégner et que nous puissions porter cet esprit et cet amour partout où on va. C'est à cela que moi, je pense, c'est à cela que Dieu nous appelle et c'est le projet de Dieu. Donc le projet de Dieu, c'est une affaire de famille. Voilà, gardez ça en tête. Moi, c'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Le projet de Dieu, c'est une affaire de famille. Gardons cette affaire de famille dans notre cœur. Portons tous dans notre cœur. C'est difficile. Des fois, on voit des gens, ils n'ont même pas dit un mot. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sympathise pas. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir dépasser ces choses. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas entre nous. Même si tu arrives du mal, prie pour que le Seigneur fasse en sorte que la chose se rétablisse, que la relation puisse être bien, que vous puissiez partager des choses, parce qu'on est tous des frères et des sœurs en Christ. Voilà, c'est le message que je voulais vous partager. J'espère que ça alimente vos réflexions. J'espère que ça va vous aider à voir les textes qu'on a lus d'une autre façon. En tout cas, aimez l'amour de la parole de Dieu. Moi, c'est tout ce que je dis. Je dis toujours, si je peux transmettre l'amour de la parole de Dieu, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. Voilà. Donc, la parole de Dieu, elle est plein de bonnes choses. On peut la lire 50 fois en ayant 50 compréhensions de ce qu'on lit. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est vivante. C'est aussi simple que ça. Ni plus, ni moins. Voilà. Que le Seigneur vous encourage et vous aide. Voilà. On peut prier ensemble si vous voulez. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Donc on peut fermer les yeux. Juste avant que je prie, je veux juste rappeler une chose. Vous savez, Dieu il a dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai déclaré prophète des nations. Moi ça, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire avant même que tu existes physiquement, je t'ai déclaré prophète des nations. Et ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, pour nous les hommes, il faut qu'une chose existe pour que nous le connaissons. Mais pour Dieu, c'est l'inverse. C'est qu'il faut qu'il nous connaisse pour qu'on existe. Il faut que Dieu nous connaisse pour qu'on existe. Donc si on existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a connus. Si le Dieu du ciel nous connaît, ben reconnaissons-le pour lui renvoyer l'ascenseur. Dieu nous connaît depuis de toute éternité. Nous devons le reconnaître. Dieu nous connaît, nous devons le reconnaître. Voilà. Donc ayons cette pensée en tête. Merci Seigneur, parce que tu nous as connus dès la fondation du monde, avant même que nous existions physiquement. Seigneur, ça, notre raison ne peut pas le comprendre. Mais nous le saisissons par notre foi. Mais nous le saisissons par notre foi pour une raison, c'est que ton esprit nous imprègne et ton esprit nous fait voir des choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Et Seigneur, c'est pour ça que je veux vraiment, ici, tous d'un commun accord, en tant que famille, en tant que frères et sœurs en Christ, reconnaître ta Seigneurie. Reconnaître que tu es le Dieu vivant. Reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant. Reconnaître que toute chose subsiste en toi. Reconnaître que véritablement, tu es en qui nous avons la vie. Et la vie avec abondance. Je te remets, Seigneur, chacun de nous ici. Je te remets tous mes frères et sœurs entre tes mains. Seigneur, nous avons tous des points forts, mais nous avons tous des points faibles. Moi, le premier, je reconnais que j'ai encore beaucoup de marge de progression. Et je reconnais que je peux faire des choses qui ne te glorifient pas. Mais Seigneur, tu sais lire les cœurs. Et tu sais que, Seigneur, tous autant que nous sommes ici, nous désirons marcher véritablement avec toi. Nous désirons toujours être vraiment à côté de toi. Nous désirons toujours te faire vraiment te faire plaisir. Nous désirons toujours, Seigneur, que là où tu es dans le ciel, que tu nous regardes et nous dire, comme tu as dit à Job, que tu es fier de nous. Seigneur, vraiment, nous voulons faire, Seigneur, du fait que, Seigneur, tu vas être fier de nous, une affaire, Seigneur, personnelle, et nous voulons marcher avec toi. Mais nous savons que, comme ta parole le dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton amour, pour que nous puissions, Seigneur, vraiment les accaparer et vivre selon ton esprit et vivre selon ton amour. Je te rends grâce et je te remercie parce que tu nous as donné le privilège de te connaître. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher fidèlement dans tes pas tous les jours de notre vie. Porte-nous, parce que nous avons besoin que tu nous portes. Mais aide-nous, Seigneur, à être de bons disciples qui suivent les voies du Maître, mais aussi à être de bons témoins qui répandent l'esprit et l'amour autour d'eux. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu formidable. Sois loué, que l'honneur et la gloire puissent remonter vers toi. Au nom de Jésus, amen.